Réplique les métamorphoses du nom de famille avec Valérie Féchet et Michel Schneider. En 1978, les États membres de l'Union européenne ont été priés par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe de faire disparaître toute discrimination entre l'homme et la femme dans le registre du nom. En 2001, les députés de l'Assemblée nationale adoptaient une nouvelle proposition de loi et celle-ci est entrée en vigueur le 1er janvier de cette année. Il a donc fallu plus de 20 ans à la France pour suivre la consigne. Certains jugeront que c'est beaucoup et que cet interminable intervalle témoigne de la force du préjugé. D'autres que c'est peu en regard de l'immensité du changement généalogique. Voilà, en tout cas, un événement auquel il est important de réfléchir. Nous le ferons avec le psychanalyste Michel Schneider, auteur entre autres de Big Mother, psychopathologie de la vie politique, et de l'anthropologue Valérie Féchet. Étant donné que vous avez publié dans la revue L'Homme un bel article exhaustif sur la transmission du nom de famille, c'est à vous, Valérie Féchet, que je m'adresserai d'abord pour connaître le contenu exact de cette nouvelle loi. Valérie Féchet.
Eh bien, depuis le 1er janvier 2005, pour les enfants qui sont nés après le 31-2004, les parents qui se sont déclarés comme tels, qu'ils soient mariés ou pas, peuvent, d'un commun accord, choisir le nom de leurs enfants, c'est-à-dire soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux, et ce double nom se caractérise par un double tiré. Donc ils rédigeront pour cela une déclaration conjointe de choix de nom et en l'absence de déclaration conjointe, la pièce maîtresse donc du nouveau dispositif, l'enfant prendra le nom du père. Donc à défaut de reconnaissance simultanée, l'enfant endossera le nom de celui qu'il a reconnu en premier. Et bien sûr, comme avant, s'il y a une reconnaissance tardive, il sera possible de revenir sur le nom de l'enfant en ajoutant au premier nom le nom manquant ou en substituant l'un par l'autre. Le nom dévolu au premier enfant vaudra pour les autres enfants communs et le fait de ne pas faire de déclaration alors que l'enfant a été reconnu simultanément équivaut à un choix de nom, ce qui est extrêmement important. Donc l'absence de déclaration vaut pour choix de nom et seul un seul choix de nom ne sera possible pour la nomination de l'enfant.
Attendez, ça veut dire quoi ça vaut pour choix de nom là. C'est-à-dire, expliquez-vous, je ne comprends pas bien.
Eh bien... La loi précise que le choix n'est ouvert qu'une seule fois. Ne pas faire de déclaration de choix de nom entraîne automatiquement l'attribution du nom du père.
Ah, c'est ça.
Et cette attribution est considérée comme choix. Donc on ne peut pas ensuite revenir sur le nom du père s'il n'y a pas eu... ça vaut pour choix de nom.
D'accord. Et d'autre part, si je vous ai bien compris, le choix, on le fait pour le premier enfant et ce choix vaut... automatiquement pour les enfants qui suivent. On ne peut pas dire celui-là aura les deux noms, tel autre le nom de la mère et tel autre le nom du père.
Voilà, c'est ça. Sachant que dans d'autres pays, au Québec par exemple, l'unicité du nom pour la fratrie n'est pas obligatoire.
Donc voilà, la loi telle qu'elle a été votée et telle qu'elle s'applique maintenant, disons, à tout le monde en France, à toutes les familles françaises.
Voilà, on peut peut-être ajouter juste une petite chose, c'est que cette loi institue maintenant différentes catégories de noms, les noms simples, Dupont, les noms composés qui préexistaient à l'entrée en vigueur de la loi et qui constituent une entité unique, indivisible. Par exemple, dans la circulaire de présentation de la loi adressée au préfet, Dubois de la Cime des Noé constitue un seul nom qui n'est pas divisible. Et maintenant, les doubles noms constitués donc en application de la nouvelle loi de plusieurs vocables issus des branches maternelles et ou paternelles et séparés par un double tiré.
Un double tiré.
Un double tiré. Le nom composé à l'ancienne, c'est un seul tiré. Le nom double sera caractérisé par un double tiré.
ce qui est très problématique, car j'ai remarqué que dans les logiciels, quand on tape tiret, tiret et ensuite espace, ça se transforme en un seul tiret, ce qui risque d'être complexe.
Bon, alors les logiciels devront être modifiés. Michel Schneider, ouais, votre réaction.
Ça risque d'être complexe et d'évoquer ce que dit Molière, qu'elle a vu de quitter le vrai nom de ses pères pour en vouloir un bâti sur des chimères. Il y a un côté chimérique, enfin une construction un peu hallucinante dans cette loi. Ce que je voudrais rappeler, c'est que le système ancien, la transmission du patronyme, était un système coutumier. Il n'était pas inscrit dans le code. Là, on a eu besoin de faire des lois parce qu'aujourd'hui, moins il y a de lois dans les têtes et plus il y en a au Parlement. C'est comme ça qu'on espère régler des choses qui relevaient autrefois d'une espèce de dispositif symbolique qui n'avait pas besoin de se formaliser dans un dispositif juridique. Ce nom avait plusieurs caractéristiques, enfin ce mode de transmission, c'est qu'il était obligatoire, unique, paternel et immuable. Depuis la loi de Fructidor en 2, il était immuable. On ne touchait plus au nom une fois qu'il était transmis. Aujourd'hui, il ne fait plus l'objet d'une transmission, mais d'un choix. Le mot choix est revenu plusieurs fois dans le texte choisi par les parents, ce qui me paraît extrêmement important. C'est vraiment la motivation principale, c'est de substituer le choix à la contrainte, dans ce domaine-là comme dans d'autres qui relèvent de l'individualisme démocratique. Et aujourd'hui, la transmission du nom peut être double. Elle est choisie, elle est mutable dans certaines limites précises, et elle peut être maternelle. C'est un changement extrêmement important. Alors, moi, je crois que c'est une mutation anthropologique qui est considérable et qui aurait mérité un véritable débat démocratique qui, il faut bien le dire, n'a pas eu lieu. Qui a réfléchi sur la fonction psychique du nom propre pour les enfants qui allaient être baptisés ainsi? Qui a essayé de comprendre pourquoi cette tradition qui remonte quand même au XIIe siècle, hein, c'est quand même pas quelque chose de qui est lié au capitalisme décadent et à la famille autoritaire que l'école de Horkheimer avait stigmatisé à la fin du siècle dernier, au début de ce siècle. Bon, pourquoi est-ce qu'on peut choisir aujourd'hui et avec quels effets psychiques le nom de ses enfants? Bon, tout ça me paraît quand même mériter réflexion. Or, on a là, dans notre classe politique, et la droite et la gauche ont à cet égard à renvoyer chacun de leur côté, une fâcheuse tendance à voter à minimum le quart des lois qui vont modifier durablement le système symbolique.
Oui, mais alors, là, je ne suis pas sûr qu'il faille accabler la classe politique elle-même, parce qu'elle est sous surveillance, une surveillance médiatique dont on voit la force, les exigences, quelquefois la férocité. Et moi, je réfléchis justement à ce que demandait d'entrée de jeu l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe aux États membres de l'Union européenne. Et avec cette demande, tout était joué. Faire disparaître toute discrimination entre l'homme et la femme dans le registre du nom. Si le patronyme relève de la discrimination, alors nul ne peut se prévaloir, si vous voulez, de cette turpitude idéologique qu'est malgré tout l'exigence d'inégalité ou le racisme. On a le sentiment que la démocratie aujourd'hui fonctionne comme cela, sous le double registre de l'évidence, il faut en finir avec les discriminations, et du scandale, pourquoi cette discrimination existe-t-elle? C'est la même raison pour laquelle on a très peu discuté du Pax, en dépit des modifications qu'il engendrait, et on discutera très peu du mariage homosexuel, et sans doute un peu plus, mais tout aussi difficilement, de l'homoparentalité, parce qu'on est dans ce registre-là d'une démocratie qui avance à coup de droit contre le préjugé atroce de la discrimination. Qu'est-ce qu'il y a de pire aujourd'hui que précisément la volonté d'exclure un certain nombre d'êtres du privilège accordé à d'autres? Donc il me semble que la discussion est mornée avec ce terme.
Oui, moi j'aimerais bien quand même, mais Valérie Féché est sûrement plus apte à faire que moi, que l'on me dise s'il y avait en France une demande manifeste, massive, de changement des règles de transmission du nom qui, encore une fois, sont millénaires. Bon, si c'était le cas, il faudrait en discuter. Moi, ce que j'ai lu là-dessus, c'est que la plupart des femmes qui ont été interrogées dans la période de latence, c'est-à-dire entre le vote de la loi et son application, à qui on demandait est-ce que vous allez, si vous avez un enfant après la loi, lui donner le nom du père ou le vôtre ou les deux, répondaient nous continuerons à donner le nom du père. Bon, et ce que vous dites dans votre article, vous dites bien que dans la plupart des pays où le choix est plus ouvert qu'en France, les pratiques sociales massives continuent de porter les femmes et les hommes à choisir le nom du père. Bon, il doit bien y avoir de fortes raisons Et c'est pourquoi j'ai le sentiment que les hommes politiques ont pris le contre-pied ou le contre-courant de cela. Alors, pour l'anecdote, on peut tout de même citer quelque chose qui est amusant, c'est que le député qui a déposé le projet de loi, M. Gouze, avait cette particularité qui pour lui était insupportable. Il avait deux filles et il voyait son nom de père s'éteindre. Et il n'a pas supporté ça. Évidemment, je ne vais pas faire de la psychohistoire et expliquer un mouvement aussi important par ce type de comportement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a parfois des demandes qui sont celles d'un petit groupe, d'une minorité, qui arrive à la faire passer en loi, c'est-à-dire en expression de la volonté générale, en faisant croire à l'opinion, qui veut bien le croire parfois, qu'il y a là une demande sociale.
Oui, mais il y a le relais des médias. Et ce bien sont sûr. Aujourd'hui les journaux qui, justement, conçoivent la démocratie comme le combat contre les discriminations, c'est-à-dire que contre les salopards qui veulent maintenir une société hiérarchique.
Les médias, pour prendre un média que vous connaissez bien, Le Monde nous a dit pendant des mois, au moment des débats sur le Pax, cette mesure concerne 5 millions de personnes, je me souviens du chiffre. Bon, aujourd'hui, on a fait des bilans. Au bout de 2 ans, il y a 70 000 paxés en France. Est-ce qu'on a entendu ces gens-là, les journalistes, dire « on s'est un petit peu trompé, ça ne correspondait pas à un grand besoin bon. »
Non, puisqu'on a dit l'an 1 du Pax, comme si effectivement c'était la révolution et que nous sortions des temps obscurs. Valérie Féchet.
Oui, effectivement, c'est une demande qui n'est peut-être pas massive, qui ne part pas de la base, mais elle correspond à un des grands principes de notre civilisation, qui est l'égalité, justement. Et à partir du moment où on décrète ce principe comme fondamental, il est assez cohérent que les institutions suivent et emboîtent le pas et essaient d'appliquer dans la réalité ce principe structurel. Alors, au niveau du nom de famille, l'égalité entre les hommes et les femmes, dans la transmission, c'est extrêmement complexe. Comment passer à l'acte, à l'œuvre ? On s'aperçoit que tous les pays qui ont réfléchi là-dessus, en fait, ont décliné l'égalité en termes de liberté des usages, parce qu'on n'arrive pas à instituer l'égalité homme-femme dans la transmission de l'enfant. On peut l'instituer le temps d'une génération, comme en Espagne, le nom du père et le nom de la mère, mais on s'aperçoit que dès la génération suivante, c'est le nom du père qui finalement sera transmis. Mais cette égalité des hommes et des femmes, effectivement, poursuit absolument toute la réforme de l'institution familiale aujourd'hui, que ce soit la façon de penser les couples, les enfants issus de différents lits, la façon de penser les mariages successifs, le principe qui sous-tend toute cette réforme fondamentale est justement liée à cette égalité des hommes et des femmes.
Oui, mais l'égalité, Valérie Féchet, ça ne veut pas forcément dire l'interchangeabilité. Que les êtres soient égaux, c'est une chose, mais que la femme accouche et pas le père, c'en est une autre. Donc, il me semble quand même que justement, il y a une confusion qui se fait aujourd'hui, là et ailleurs, entre égalité et interchangeabilité, comme si... Si vous voulez, la conséquence de l'affirmation de l'égalité entre les hommes et les femmes ou entre les êtres, c'était l'indifférenciation. Que tous les hommes soient égaux, c'est clair, mais les enfants ne sont pas tout à fait des adultes. Or, on nous explique que l'école doit être une communauté démocratique. C'est un autre exemple, si vous voulez. Ne peut-on pas parler d'un emballement de l'égalité dès lors que, précisément, c'est la différence des statuts, des fonctions et des natures qui devient l'obstacle à vaincre pour réaliser l'égalité.
Effectivement, cette égalité aujourd'hui surgit à des niveaux vraiment inattendus. Et cette réforme du nom de famille pose certes l'égalité des sexes, mais surtout pas au niveau de la France et pas encore vraiment saisissable chez nous, car l'immuabilité du nom a été réaffirmée et du coup la version de la 12e législature est revenue un petit peu en arrière. Mais partout en Europe, quand on institue ce principe de l'égalité des sexes dans le nom, on s'aperçoit qu'on autorise les enfants à leur majorité au cours de leur vie ou avant la naissance de leur premier mariage, on les autorise à se renommer, Alors, de différentes manières. Hein. Parfois, c'est une fois, parfois, c'est plusieurs fois au cours de la vie, parfois, c'est à des moments très particuliers. Mais on s'aperçoit donc, effectivement, que l'égalité aujourd'hui concerne même l'ordre des générations et qu'on redéfinit la hiérarchie des générations et que l'exemple du nom en est un exemple vraiment flagrant.
Oui, alors, et ça, vous me dites, ce n'est pas encore vrai pour la France.
Et non, car ça a failli être vrai. Car la première version de la loi 11e législature, si mes souvenirs sont bons, précisait que l'enfant devenu majeur pouvait ajouter le nom du parent qui ne lui avait pas transmis le sien pour ensuite, dans le cadre de la nomination de ses propres enfants, avoir un choix. La 12e législature est revenue là-dessus au nom de l'irrévocabilité du nom et de l'immuabilité du nom de famille, ce qui fait que maintenant nous sommes dans un système avec double contrainte, selon l'expression de Bateson, c'est-à-dire qu'on nous dit liberté de choix, un choix parmi 14 pour les parents, qui sera donc forcément conjecturel, subjectif, et on nous dit ensuite, mais les enfants seront les otages de ce choix et ne pourront pas y revenir. Et là, il y a donc une contradiction. Il vaut mieux, me semble-t-il, un système autoritaire radical, il n'y a pas le choix, c'est le nom du père, ou alors un système libéral qui permet effectivement d'introduire également le choix de se renommer pour les enfants qui l'ont été par des parents à un moment donné.
Peut-être que justement la France est en sursis en quelque sorte et qu'elle a du mal à changer de régime, mais peut-être est-elle vouée à ce libéralisme-là, Michel Schneider.
Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit sur l'inégalité. Vous dites dans votre article qu'il y avait une inégalité qui n'était pas supportable, c'était celle entre les enfants qui portaient le nom de leur mère parce qu'ils étaient dits de fille-mère ou sans père, et les autres qui portaient le nom du père, qui étaient les premiers étant discriminés. Je crois que cette discrimination incontestablement a eu lieu dans une France, je veux dire, à la fin du 19e siècle, celle des romans de Bernanos, mais qu'elle est morte avec la déchristianisation, avec l'évolution des mœurs, la montée du divorce. Et aujourd'hui, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'un enfant né qui porte le nom de sa mère est victime d'une discrimination, d'un ostracisme de la part de l'école ou de la société. Alors, l'argument sur le patriarcat et l'égalité nécessaire dans la capacité de transmettre son nom. Je fais observer d'ailleurs que si les mères transmettent leur nom, en tout cas la première génération des mères qui vont le faire, elles transmettront le nom de leur père.
Oui, bien sûr.
Bon, je ne crois pas que le nom relève de la même logique que les autres acquis légitimes et heureux de l'égalité des femmes par rapport aux hommes. Je ne crois pas qu'on puisse mettre la réforme du nom sur le même plan que, par exemple, la réforme des biens en 1907, quand on a donné aux femmes mariées la pleine disposition et la pleine liberté de leurs biens, ce qu'elles n'avaient pas auparavant, elles étaient mineures économiques. Bon. Ce n'est pas la même chose parce que précisément, le nom n'est pas un bien. Le nom n'est pas quelque chose que l'on détient et que l'on donne à ses enfants. Le nom est quelque chose que l'on reçoit de ses pères, de ses parents, et que l'on transmet, je dirais, presque malgré soi, puisqu'il y avait cette espèce d'obligation de transmission. Donc, ça ne prive pas la femme de quelque chose qu'elle n'aurait pas, qu'elle ne pourrait pas donner, comme s'il s'agissait d'un bien. C'est une marque. Alors, autant il faut se battre pour que les femmes accèdent à l'égalité dans toutes les fonctions et les salaires dans la société, autant féminiser les noms de fonction ou féminiser la transmission du nom propre me paraît déguiser ou habiller d'une revendication d'égalité quelque chose qui relève d'une toute autre revendication qui, elle, est peut-être massivement répandue et qui est la revendication au libre choix et à la fin de tout ce qui pourrait être une contrainte extérieure je ne dis pas au sujet, parce que est-ce qu'on est au sujet quand on est dans une liberté de choix absolue que aucune loi, si ce n'est celle de son désir, ne vient borner. Donc de laisser à l'individu le libre choix de choses qui jusqu'alors n'étaient pas susceptibles de choix. Et on voit ce champ bien, bien plus largement. Aujourd'hui, on a l'impression que le choix du sexe est l'affaire de l'individu, que le choix de la nation est l'affaire de l'individu. Or, les éléments d'un système symbolique, c'est très simple. C'est ce qui est avant le sujet, après lui, c'est ce qui est en dehors de lui, c'est ce qui lui échappe. On ne choisit pas son nom, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa langue, on ne choisit pas sa grammaire, on ne choisit pas son pays. Et c'est ça qui permet, c'est ce non-choix qui, paradoxalement, donne une liberté de devenir sujet.
D'ailleurs, on peut dire même que la manière dont s'est élargi le choix des prénoms donner aux enfants.
Lui-même était jeune,
dans le sens de ce qu'il vous dit. Bien sûr, les parents choisissent les prénoms, mais ils obéissaient inconsciemment à un certain système de contraintes. Ils étaient de quelque part.
La loi prévoyait.
Voilà.
Il devait appartenir à l'un des calendriers.
Voilà. Maintenant, on peut donner des noms et des prénoms de toutes les nationalités, mais aussi de cette nouvelle nationalité qui est la culture de masse. Et beaucoup d'enfants se retrouvent affublés de prénoms de héros de Star Wars, par exemple, ou de Dallas. Et on voit qu'effectivement, on n'a pas du tout le même rapport. Il y a une sorte de supermarché planétaire dans laquelle on peut se servir. Et pour aller dans votre sens, avant que vous répondiez, Valérie Féchet, je voulais donner une citation de Pierre Legendre, psychanalyste, dans un livre célèbre, « L'inestimable objet de la transmission, étude sur le principe généalogique en Occident ». Chaque sujet vivant, dit-il, porte la cicatrice d'une estampille généalogique qui le renvoie en permanence au sacrifice de la toute-puissance, c'est-à-dire en même temps à la reconnaissance de sa propre place dans l'espèce. Et n'est-ce pas ce sacrifice-là de la toute-puissance qui est toujours plus difficile à faire admettre aux individus? Et bon, alors on peut maquiller cela par l'exigence d'égalité, mais d'un autre côté, ce « je veux » qui se manifeste sans cesse, le « je veux » du sujet monarque, eh ben, ça peut avoir quelque chose d'inquiétant, ne fût-ce d'ailleurs que pour la structuration du sujet lui-même, Valérie Féchet.
Oui, alors une réponse plutôt d'anthropologue. Je dirais que la nomination des individus dans toutes les sociétés, c'est le fruit d'une élaboration extrêmement subtile, toujours singulière, qui renvoie à la hiérarchisation sociale, au lien entre l'individu et l'État, l'individu et le groupe familial. Mais un nom propre, selon l'expression consacrée, c'est une conjonction de différentes particules qui, mises bout à bout, affinent l'identification et permettent de transformer l'individu en une personne. Et la personne a quand même de l'emprise sur la construction de sa personnalité par l'intermédiaire du nom. Car un nom de famille, c'est pas seulement un patronyme ou un matronyme, ce n'est qu'un fragment d'un système plus vaste. Bien sûr, les prénoms, les surnoms, les noms d'usage, les pseudonymes qui constituent la gamme à partir de laquelle l'identité va être instituée et va se constituer. Alors, je crois qu'il y a beaucoup plus de nuances, peut-être.
Il y a une différence majeure à faire entre le prénom et le nom. Le prénom, d'abord, il est sexué, à quelques exceptions près, Camille, Dominique, etc. Le prénom, il est sexué. Le prénom, il est pris dans l'imaginaire des parents. On appelle l'enfant du nom d'un grand-parent disparu, aimé, etc. Bon. Le nom, c'est tout différent. Le nom, il articule l'enfant, non pas aux parents, il articule l'enfant à la filiation, à la généalogie. Il est vertical, alors que le prénom est plutôt dans l'espace de ce couple-là. Alors, si l'on dit que donner le nom du père, enfin donner, transmettre automatiquement le nom du père est une restriction de la liberté, j'avoue que je ne comprends pas. D'abord, il faut quand même rappeler que toute différence de traitement n'est pas une inégalité, que toute inégalité n'est pas une discrimination et que toute discrimination n'est pas une injustice. Bon, il faut quand même faire ce type de différence. Deuxièmement, il y a des inégalités de traitement ou des différences de traitement qui, moi, ne me choquent pas. C'est ce que Lévi-Strauss appelle la parenté, le système de la parenté, comme le dit Lévi-Strauss, il est plein de disharmonie. Il n'est qu'un jeu de disharmonie ou de déséquilibre compensé entre les généalogies ou les filiations paternelles et maternelles. Alors, vous dites dans votre article deux choses qui sont... Vous faites deux constats anthropologiques que je veux bien, auxquels je veux bien souscrire, mais je n'ai pas de raison de les mettre en cause. Vous dites d'une part, les familles se structurent de plus en plus autour des femmes, premier énoncé. Deuxièmement, vous dites, quoi qu'il en soit, dans tous les pays, notamment ceux où le choix est ouvert, majoritairement et très majoritairement, c'est encore le père qui signe l'enfant. Bon, alors, devant ces deux constats qui sont contradictoires, les mères font la reproduction de la famille, les pères donnent le nom. On a deux tendances. Les réactionnaires disent il faut mettre le droit, le faire en accord avec le droit et revenir à la prépondérance paternelle, supprimer l'autorité parentale, etc. Les progressistes disent il faut mettre le droit en accord avec le fait, supprimer le privilège du nom paternel. Moi je dis pourquoi faudrait-il lever cette contradiction? Elle est peut-être d'abord elle est dans les faits, elle est dans les comportements, et puis elle est peut-être féconde. Elle permet peut-être aux enfants d'être effectivement élevés par la mère, mais pas uniquement par la mère, parce qu'il y a quand même cette espèce de marque du nom qu'ils continuent de porter et qui leur dit qu'ils sont aussi issus d'un père. Et c'est probablement ça qui, dans l'inconscient collectif, fait qu'aujourd'hui, la plupart des mères, même quand elles en ont le choix, préfèrent transmettre le nom du père que leur propre nom.
Et je suis obligé de vous citer pour aller dans votre sens, Michel Schneider. Qu'est-ce que le nom, ce presque rien que transmet le père pour que la mère ne soit pas tout? Et vous ajoutez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, transmet, pas donne. Valérie Féchet, justement, qu'est-ce que vous avez... Là, on s'est placé sur le terrain d'anthropologie, en plus.
Peut-être une toute petite précision hors sujet pour dire que je ne suis ni pour ni contre cette affaire. Et c'est important car il suffit d'étudier les propriétés d'un phénomène pour tout de suite être rattrapé par un discours politique. Et je voudrais vraiment ne pas me positionner en termes d'évaluation des politiques publiques dans cette analyse du nom.
Pourtant, quand j'ai lu votre entretien dans Le Monde... Enfin, Le Monde est évidemment très pour, il est tellement pour qu'il ne peut pas imaginer qu'on soit contre, et votre entretien était semble-t-il pris dans ce grand mouvement d'émancipation générale. C'est à votre corps défendant, alors?
Un petit peu, oui. C'est les journalistes systématiquement titrent la fin du patronyme, ce que je n'ai jamais dit, avec ce ton-là, même
d'accord.
si c'est écrit de façon plus sobre. Ce que je pourrais dire, c'est que l'égalité des sexes en anthropologie résonne effectivement en termes de filiation. Car dans le domaine du nom, l'égalité du féminin et du masculin renvoie immédiatement à l'égalité des branches paternelles et maternelles dans le rapport à l'enfant. Alors qu'est-ce que cette réforme change en termes de filiation ? Il faut penser pour ça le nom avec le prénom. Alors en France, il est coutumier que l'enfant porte trois prénoms. Le premier est choisi, une logique horizontale, des modes propres pour chaque génération. Et le second, généralement, pour le garçon, c'est le prénom, système traditionnel, c'est le prénom du grand-père paternel. Et le second, c'est le prénom du grand-père maternel. Pour la fille, premier prénom. Neuf, nouveau stock, on enrichit le stock familial. Deuxième prénom, grand-mère. Maternelle et troisième prénom grand-mère paternelle. Donc on voit, il y a là le patronyme qui s'ajoute et qui fait un léger déséquilibre, mais léger. Si on compte les vocables, ça fait deux vocables côté paternel, un vocable côté maternel. Mais avec la nouvelle loi, tout simplement, sans changer fondamentalement les choses, ça a rééquilibré les principes du féminin et du masculin. Et quand on compte le nombre de vocables avec un double nom, imaginons, c'est maintenant deux vocables en ligne paternelle, deux vocables en ligne maternelle, pour l'ensemble des enfants, garçons et filles. Donc cette histoire de filiation si traditionnelle du nom du père est plus nuancée, me semble-t-il, qu'une lignée vraiment unilinéaire qui se définirait.
J'aurais une question, mais allez-y, Michel Schneider.
Ce qui me frappe, c'est ce que j'appellerais la prénomisation du nom. C'est-à-dire que vous avez effectivement une montée, ce qui est flagrant depuis ces dernières années, du prénom dans la sphère publique. À la télévision, on n'appelle pas les gens par leur nom de famille, on les appelle par leur prénom, même si on ne les connaît pas. Un ministre, on l'appelle par son prénom. Au gouvernement, Jospin nous a fait le coup de « il y a là Dominique, Martine, etc. etc. » C'est effectivement la confusion de cette distinction fondamentale à la démocratie que Hannah Arendt nous a rappelée entre la sphère publique et la sphère privée. La sphère publique, c'est celle du nom de famille, qu'on appelait le nom du père, enfin qui était le nom paternel autrefois, et du petit nom qui reste dans l'espace familial, familier, maternel. Bon, alors c'est pas tellement le clivage masculin-féminin qui est en cause derrière ça. C'est même pas non plus la décroissance flagrante de la fonction paternelle quand même dans nos sociétés. On peut pas dire que supprimer la transmission du nom patronymique soit sans effet ou n'est pas la conséquence d'un déclin global de la fonction paternelle dans nos sociétés. Mais c'est la montée d'un peuple d'enfants qui a des prénoms et puis des noms qu'on a choisis, mais sous l'égide ou le pouvoir d'une Big Mother bienveillante.
Qui a des prénoms et aussi qui n'a plus tellement de père et de mère, parce que dans la sphère publique aussi, on ne dit plus la mère d'un tel.
Non, ni la maman.
C'est la maman de Jospin qui est morte récemment. Et c'est sur la maman de Jospin qui était aussi sa propre maman que Noël Châtelet a écrit un livre. Nous, quel que soit notre âge, nous avons des mamans et des papas. Or, qu'est-ce qu'un papa par rapport à un père ? C'est une deuxième maman. Donc il est possible aussi que dans cette nouvelle configuration, des prénoms et des deux mamans, le patronyme n'ait pas pu durer extrêmement longtemps, parce qu'il y a une sorte aussi de révolte des pères eux-mêmes, une révolte interne contre la fonction paternelle, avec tout justement toute la contrainte, la majesté disons pré-démocratique, dont aux yeux de beaucoup, elle était porteuse. Mais je voudrais vous poser une question, Valérie Féchet, disons très précise. Vous avez parlé de cette configuration traditionnelle, donc un premier prénom neuf, deux prénoms nom des grands-parents. Sait-on si cette tradition se maintient aujourd'hui avec la même force qu'elle avait hier? Est-elle ou est-elle en voie de marginalisation, voire de résorption? Parce que je me pose la question, c'est si vous en êtes à donner à votre enfant le nom d'un héros ou d'une héroïne de séries télévisées en général américaine, d'où nous vient aussi l'Amérique, l'habitude du prénom systématique. Est-ce que vous êtes vraiment attaché à la coutume qui veut que les autres prénoms soient ceux des grands-parents? Ou est-ce que je me trompe en pensant que cette tradition est aujourd'hui un peu délaissée?
Difficile de répondre, il faudrait mener de lourdes enquêtes là-dessus. C'est mais quand je fais de temps en temps des tests dans le cadre des enseignements que je peux donner, ou systématiquement, quand je parle de ça, je demande aux étudiants au hasard quels sont les prénoms qu'ils portent et qui sont ceux qui leur ont transmis, et c'est presque systématiquement ça. Donc, c'est presque systématiquement ça. Bon, ce sont des gens qui ont une vingtaine d'années. Alors aujourd'hui, je ne sais pas trop au juste. Mais à mon avis, ça se poursuit plus qu'on ne l'imagine. Et la force des usages est bien plus ancrée qu'on ne le croit.
Mais alors, justement, je vous pose la question parce que j'ai sous les yeux le livre qui vient de sortir de Michel Thor, psychanalyste également, Fin du dogme paternel, qui célèbre tout en la décrivant cette fin et qui donc est très favorable à la nouvelle loi. Et il dit ceci: ce qui fait la loi, et vous me direz, Valérie Féchet, si vous êtes d'accord avec cette analyse, n'est plus la référence à la généalogie, mais la référence horizontale à la liberté des individus parents et des enfants devenus adultes. La nouveauté est incontestablement la disjonction entre parentalité et généalogie. Nous sommes dans l'univers du choix plutôt que dans celui de la contrainte. Donc, si c'est vrai, si c'est plutôt l'horizontalité que la verticalité qui fait loi, alors je me demande en effet si, justement, l'habitude de donner les prénoms des morts à des enfants vivants peut, disons, se maintenir. Parce que, ou alors, mais peut-être faut-il corriger cette impression-là d'une disjonction massive entre parentalité et généalogie. Qu'est-ce que vous en pensez, Valérie Féchet?
La réforme du nom qui introduit un choix parmi 14 dans le cas extrême, sans doute aura une résonance horizontale, mais elle a surtout une résonance verticale, car quels sont ces noms? D'où viennent-ils? Ça va être là, quatre noms de famille qui vont venir de façon verticale, du haut vers le bas, et le parent nommant l'enfant va faire un choix très sophistiqué, qui ne fera sans doute pas, mais il aura la possibilité de le faire vis-à-vis de ses ascendants. Alors, quelle est la ligne ascendante qui va être privilégiée? Quels seront les critères de sélection? Et il ne s'agit pas là d'aller chercher le nom du voisin, mais bien le nom de son père, grand-père, ou du père de sa mère, etc. etc. Donc, le principe vertical ne me semble pas du tout
menacé.
Enfin, menacé, c'est orienté, mais pas du tout remis en cause. Ah, dans cette affaire.
Oui, donc oui, vous maintenez la neutralité axiologique, hein,
oui,
je vois
oui,
ça.
Oui. Très
bien. Michel Schneider.
Sur le vertical et l'horizontal, le vertical me paraît compromis par deux choses. D'abord, il faut rappeler que dans la première loi, celle qui a été votée par les socialistes et les écolos, il y avait la capacité donnée au sujet, à la majorité, de choisir son nom, de changer de nom.
C'est-à-dire
d'effacer le nom de sa mère ou de son père, s'il ne s'entendait pas avec lui, s'il y avait une querelle sur l'héritage ou je ne sais quoi, on pouvait changer
de nom. C'était une substitution ou une adjonction? Là, j'avais un petit trou de mémoire.
Substitution. Oui, l'automutabilité du nom. Ça a été supprimé par la droite en 2003. tant mieux, ça reviendra. Ça reviendra. Il faut voir que là, on est dans une logique, comme vous disiez, on s'est arrêté à mi-chemin parce qu'il y a quand même des pesanteurs en France, on ne va pas jusqu'au bout de la logique libérale, mais un jour, on aura le choix absolu de changer de nom à tout moment, au fil des aléas de son évolution psychologique à l'adolescence, par exemple. Et puis, d'autre part, il y a une chose sur laquelle personne n'a insisté et qui, personnellement, m'inquiète beaucoup, c'est les grands-parents. Quand vous avez, parce qu'on limite à deux noms, heureusement, parce que sinon, on aurait, à la troisième génération, on en aurait, je ne sais pas combien, 32, va bon.
Les Portugais en ont 4.
On élimine donc, à la deuxième génération, deux des grands-parents, un de chaque côté.
Hein? Oui.
Si on a transmis le double nom, alors qui va choisir? Tiens, dans un couple, il va y avoir des sources de conflit, je ne vous dis pas. On élimine ta belle-mère, le nom de ta belle-mère ou celui de mon beau-père. Bon, ça va être, effectivement, ça donne au sujet, c'est-à-dire aux parents, une capacité de réécrire leur généalogie quand ils vont la transmettre à leurs propres enfants. Absolument. Et ça me paraît quand même source d'effets psychiques qu'on ne mesure pas. Je ne veux pas dire que ça va être catastrophique, qu'il va y avoir des psychotiques en masse dans 30 ans, mais on touche quand même à quelque chose qui autrefois était hors d'atteinte du désir ou du fantasme des sujets. C'est-à-dire une sorte d'auto-engendrement, tout de même.
Mais là, il fait chier.
Les critères de choix, et effectivement, les critères de choix. On peut essayer d'en montrer assez rapidement une liste. Comment va se faire le choix? Alors, le choix tradition, le nom du père au nom de la tradition, c'est une chose. Le choix patrimoine, la sauvegarde d'un nom rare, par exemple, c'est l'argument qui revient souvent. Ou le choix affectif, par la négative, souvent... on rejette le nom du père ou d'une belle-mère méchante. Un choix à sanction. Hein. Ou alors un choix politique, communautaire, identitaire. J'ai souvent entendu dire des gens qu'ils vont à cette occasion instituer un double nom qui accolera un nom français, l'uniforme standard, et le nom qui peut-être les rattachera à leur communauté d'origine.
On a même entendu un député dire c'est le seul moyen de la multiplication des noms et la transmission du nom maternel pour éviter le tarissement de la belle onomastique française, des familles françaises, et pour éviter que dans 20 ans tout le monde s'appelle Mohamed. Il y a quand même eu aussi ça, de défendre le patrimoine des noms de la France, dont une partie disparaît effectivement quand il ne se transmet pas par les femmes. Oui.
Puis le choix esthétique, harmonique, un beau nom qui sonne bien. Et le souvenir des morts, et l'âme-nom, comme on dirait chez les Inuits, qui baptisent un enfant en fonction de principes de réincarnation. Donc l'âme-nom qui, là pour l'instant chez nous, c'est plutôt à propos du prénom, et qui va peut-être se déplacer sur le nom de famille maintenant.
Mais ça, vous pouviez déjà, dans la loi, vous pouviez vous appeler Pierre Brossolette, ou vous appeler Joliot-Curie, si vous avez...
usage.
Non, de vous demander le changement de nom, c'était un des motifs admis du changement de nom, de prendre le nom d'un ancêtre.
D'un ancêtre, oui.
On ne va pas prendre le nom d'un quelqu'un qu'on ne connaît pas.
Oui, mais tout de même, sur cette question encore du choix, de l'horizontalité et de la verticalité, vous dites que vous ne voulez pas vous prononcer, vous analysez les choses, et en effet, de manière très précise et très exhaustive, Valérie Féchet, je me réfère une fois encore à cet article paru dans L'Homme, mais. Vous savez ce que vous faites, et des choses que vous décrivez ne peuvent que faire frémir. Alors frémissez-vous en l'écrivant cela. Vous parlez des processus de contre-transmission, ce à quoi la France a échappé pour quelques années à venir.
Oui. Mais
vous le décrivez très bien, donc. L'enfant peut corriger à son tour, à sa majorité, lorsqu'il deviendra parent, sa première écriture. Cela signifie que les individus vont pouvoir tenir un raisonnement au mérite par rapport à leurs propres parents pour déterminer le nom de leurs enfants. Et vous parlez d'une lectrice du quotidien Libération. « Je n'ai pas eu la chance d'avoir un père aussi attentif que vous », répond-elle à un correspondant. « Alors il ne me reste que cette arme contre lui, lui soustraire le contrôle qu'il a sur mon identité en lui rendant mon nom. Il est hors de question que je transmette un jour à mes enfants. » Et puis, vous parlez d'un certain Archibald de Rouge, c'est un pseudonyme, qui a écrit des choses aussi dans Libération. « Depuis quelques années déjà, le Québec autorise les parents à donner à leurs enfants le nom du père, de la mère ou des deux. Mes trois enfants ont les deux noms et ça leur plaît beaucoup. Lorsque je leur refuse quelque chose, mes deux grandes filles n'ont rien de plus pressé que de laisser tomber mon nom de famille pour n'utiliser que celui de leur mère. On en rigole beaucoup, elles aussi. » Je trouve pas ça très rigolo. D'ailleurs, ça, c'est peut-être que ça va être aussi une possibilité française, ce que vient de décrire Michel Schneider. Ça crée quand même des situations familiales
terrible. Et là, quand même, on se dit quoi ? C'est Dieu qui est causa sui. C'est Dieu qui est cause de lui-même. Oui. L'homme subit un certain nombre de contraintes. Il est né. Et pour Sartre, d'ailleurs, le fait d'être né, c'était le fait de ne pas pouvoir être libre. La vraie liberté, ce serait de quelqu'un qui n'est pas né, de quelqu'un d'autre. Mais là, on a envie de... Ce choix originel, possible à chacun... vous pouvez, face à cette nouvelle ouverture, garder cette impassibilité scientifique qui est la vôtre, ou est-ce que c'est normal que le lecteur ait un peu peur en lisant ça?
Oui, sans doute, c'est assez effrayant, effectivement, mais ce sont des cas plus fantasmatiques et théoriques à la marge que véritablement réels. Je pense pas que les usages, encore une fois, se transforment du tout au tout, du jour au lendemain, loin de là. Mais permettre l'expression, finalement, de toutes ces sensibilités, de tout ce vécu, pourquoi pas, du moment que le système est cohérent et qu'il n'y a pas de contraintes majeures en interne, pourquoi pas ?
Je saute là-dessus parce que c'est quelque chose que je ne supporte pas. Autrefois, la politique consistait à se demander pourquoi. Et on demandait aux hommes politiques, pourquoi vous proposez telle mesure ? Ils répondaient, parce que c'est dans l'intérêt général, c'est une mesure qui va résoudre tel et tel problème. Aujourd'hui, les hommes politiques se demandent, pourquoi pas ? Tiens, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un mariage homosexuel ? Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une filiation homosexuelle ? Pourquoi est-ce qu'on ne changerait pas les règles de transmission du nom ? Et au fond, la réponse maintenant à la question politique, ce n'est pas ce qui est souhaitable, c'est ce qui est possible. C'est possible techniquement. Oui, c'est possible techniquement de faire des filiations homosexuelles. Alors pourquoi ne pas le mettre dans la loi ? C'est une perversion du champ politique de substituer la question du pourquoi, la succession du pourquoi pas, à la question du pourquoi.
Oui, mais cette perversion, elle est peut-être aussi rendue possible par les nouvelles habitudes intellectuelles et la certitude qu'il n'y a pas de nature. Je crois, si vous voulez. C'est-à-dire que j'entends aussi chez beaucoup d'intellectuels, chez beaucoup de sociologues, chez beaucoup de représentants des sciences sociales, le pourquoi pas. On vous dit, le naturalisme, c'est une illusion. Toutes les croyances, toutes les pratiques sont en réalité historiques et construites. Donc si elles sont construites comme la déconstruction nous le montre, on peut bien les construire autrement. Oui, et la déconstruction fait le lit d'une sorte de constructivisme effréné. La famille d'avant le Parc, c'était une famille parmi d'autres. Les anthropologues nous ont montré une multitude d'exemples. Alors, effectivement, pourquoi ne pas en changer, sinon en s'adossant à une idée de nature dont on vous a prévenu qu'elle n'existait pas. Autrefois, le romantisme disait, puisque c'est historique, il faut le protéger. Maintenant, le même constat débouche sur l'attitude absolument inverse. Puisque c'est historique, on peut le faire disparaître et l'histoire, elle est celle de la malléabilité de l'espèce humaine.
C'est plus que ça. Dans l'argument est celui de Michel Thor, par exemple, qui est de dire, au fond, tout ça, la domination paternelle, la transmission du patronyme, c'est historique. Et quand on a dit c'est historique, on a l'impression on a dit ça n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas parce que ça ne devrait pas exister. Voilà. Au fond, c'est ça. Ça ne devrait pas exister. Alors, moi, je réponds qu'une histoire qui dure depuis le XIIe siècle et qui est quand même, dans notre pays, tellement ancrée dans l'inconscient et dans les mœurs qu'elle est encore aujourd'hui, où le nom devient facultatif, qu'elle va se perpétuer, elle ressemble fort à un invariant, à quelque chose qu'on appelle en ethnologie une structure, quand même. On ne peut pas dire que c'est de la conjoncture temporellement dépassable. Alors que la volonté de détruire la famille et de mettre de l'horizontalité là où il y avait de la verticalité soit assez répandue aujourd'hui, c'est vrai. Mais encore une fois, pourquoi faudrait-il que la loi contribue à cette désymbolisation systématique qui consiste à mettre de l'horizontal partout où il y avait du vertical ? Le mariage est une structure verticale, c'est la transmission d'un patrimoine et de la vie à des enfants. Et aujourd'hui, avec le Pax et le mariage homosexuel bientôt, ça va devenir une affaire purement horizontale. On se rend compte, on institue un petit quelque chose dans le présentisme le plus absolu, mais on ne s'inscrit plus dans l'ordre des générations. Et le nom, ça devient la même chose. C'est pas quelque chose qui vient verticalement, c'est quelque chose un pacte qui est passé entre les deux parents pour le transmettre, certes à des enfants, mais c'est révisable et révocable.
Peut-être répondre que l'emphase qui est mise actuellement sur les dimensions psychologiques du nom me touche, bien sûr, je me sens aussi concernée, mais en même temps me paraît abusive. Car bien sûr, il ne s'agit pas de changer le nom d'un enfant tous les 6 mois ou de lui donner n'importe quel nom, comme ça, au passage. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut être en désaccord avec son nom. Le nom, c'est vrai, peut agacer, mais même s'il énerve parfois celui qui le porte, un nom en lui-même, sauf cas extrême, les noms ridicules, les noms reflétant un épisode traumatique, les adoptions malheureuses, les violences, etc.,
les
négligences. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un nom en lui-même ne rendra jamais personne malheureux ou sous-tendu au niveau culturel et psychologique. C'est l'amour, tout simplement, qu'on donne à un enfant qui le rend heureux ou malheureux, et la place qu'on lui accorde et qu'on lui porte. Il y a d'autres sujets qui me paraissent beaucoup plus dramatiques. Priver un enfant de père ou de mère, ça, c'est une violence inouïe que la société, pourtant, accompagne volontiers, comme priver un père de son enfant ou une mère de son enfant. Là, je trouve qu'on touche à l'horreur.
Qu'est-ce que la société peut faire, là, quand vous dites priver un enfant de père ou de mère? S'il y a des divorces, la société ne peut pas les marier contre leur gré, ou alors...
Oui, d'accord, mais c'est pour repositionner le degré de dramatique des choses. Un nom n'est qu'une étiquette. Même si le terme est peut-être mal choisi.
Mais surtout, est-ce qu'on peut changer l'étiquette? C'est la question.
On peut changer l'étiquette, mais ce n'est pas parce qu'on change l'étiquette qu'on changera la réalité. Et donc, il ne faut pas engager les gens à de faux combats, ça c'est vrai.
Si les psychanalystes, bien sûr, il y en a comme Michel Thor, qui sont contre le maintien de la fonction paternelle, si les psychanalystes, en leur majorité, défendent la fonction paternelle, la transmission du patronyme, refusent les homoparentalités, c'est pas parce qu'ils sont réactionnaires ou comme on le reproche à Lacan, des maréchalistes convaincus qui défendent la famille telle que le maréchal Pétain la voyait. C'est parce qu'ils ont affaire, concrètement, quotidiennement, à des troubles de la personnalité chez les enfants, chez les adultes, qui sont très précisément liés à la disparition, au déclin de la fonction paternelle. C'est ça qui les amène à avoir des positions qui ne sont pas, encore une fois, arc-boutées à de l'idéologie. C'est de la pratique, c'est de la clinique qui les amène à faire ces constats. Quand vous voyez, comme disait Alain tout à l'heure, qui donne le nom, les noms, c'est Dieu qui donne les noms communs et les noms propres. C'est Dieu qui nomme. Hein. Et se donner son nom, qu'on le veuille ou non, ça renvoie à une structure psychotique, c'est-à-dire qu'on dit, comme Antonin Artaud, moi Antonin Artaud, je suis mon fils, mon père, ma mère. Eh bien, dire ça, ou croire ça, ou se représenter sa propre origine, se représenter soi-même comme sa propre origine, c'est inéluctablement quelque chose d'un fonctionnement psychotique. Ce qui ne veut pas dire que si on généralise ce comportement de la désignation les deux noms ou le nom de la mère, on va arriver à une génération psychotique. Mais on introduit dans la loi un facteur de déstabilisation de quelque chose qui était un garde-fou, au sens strict, un garde-fou.
Et alors justement, il y a quand même des nations qui vont encore plus loin que les autres, qui sont ultra-libérale, et vous parlez, Valérie Féchet, j'étais assez sidéré de l'apprendre, des Norvégiens dont vous dites qu'ils peuvent changer de nom tous les 10 ans s'ils le souhaitent. Donc effectivement, toute puissance et en même temps caprice, puisque c'est une des réalités de notre temps. On veut n'écouter que son désir, tout en sachant que son désir change. D'où d'ailleurs ces nouvelles formes de rupture par lettre recommandée. Nous ne devons pas être fidèles à quoi que ce soit, et surtout pas à nous-mêmes. Mais ça veut dire quoi, changer son nom tous les 10 ans?
C'est une ouverture, une possibilité qui vient d'être instituée par la dernière loi du nom en Norvège. C'est pas pour ça que les Norvégiens changent de nom tous les 10 ans, loin de là. Une personne, c'est déjà tellement difficile à instituer. Je crois que quand quelqu'un a une identité, elle fera en sorte de la garder. Et
mais alors pourquoi ils ont institué cette loi? Ça correspond à quelle pulsion, quel besoin, quelle demande?
Ce principe constitutionnel de la liberté, de l'égalité, et on y revient sans cesse, et on retombe toujours là-dessus, qui se décline aujourd'hui à peu près à tous les niveaux de l'institution familiale.
Mais est-ce que c'est encore une institution, justement? L'univers du contrat dans lequel nous entrons n'est pas... un univers de la désinstitutionnalisation, puisque égalité veut dire que chacun peut avoir le rôle de l'autre. Or, dans l'institution, les rôles sont partagés. Et on voit justement qu'un peu partout, les institutions tremblaient sur leur base du fait de ces nouveaux principes qui s'instaurent. Et là, l'anthropologue, est-ce qu'il doit les accompagner ou justement lui-même est au courant du fonctionnement des institutions, ne doit-il pas réfléchir à l'ébranlement que celles-ci subissent aujourd'hui ? Un ébranlement tout à fait fondamental. Il est difficile de, toujours plus difficile de parler de la famille comme d'une institution, et de l'école, Dieu sait.
Ce qui est sûr, c'est que les systèmes de parenté sont en modification permanente et en métamorphose constante, et qu'il n'y a pas un système établi une fois pour toutes, et que tout est constamment bricolé, redéfini, repensé.
Bien, eh ben, voilà. Écoutez, c'est le bricolage, c'est de ce bricolage que nous aurons parlé aujourd'hui, et je suis très heureux d'avoir pu tenir cette discussion sur un problème très important. Alors je rappelle, Michel Schneider, le titre du livre qui était consacré entre autres au problème que nous avons traité aujourd'hui, Big Mother, psychopathologie de la vie quotidienne. Ce livre était publié chez Odile Jacob et il vient de sortir en livre de poche chez le même éditeur. Valérie Féchet, vous avez publié dans la revue L'Homme, le numéro 169, en 2004, la transmission du nom de famille en Europe occidentale, et dans la revue Terrain, même année, 2004, le numéro 42, un numéro consacré au rapport homme-femme. Vous avez publié aussi un article intitulé « Nouveaux pères, dernières épouses ». C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Claire Poinsignon.